Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste, Le Sympathisant, une série originale HBO, à regarder dès maintenant sur Crave.
Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, 13 mars 2023. Dire qu'il y a 3 ans, à peu près à cette date-ci, là, tout s'écroulait avec le début de la pandémie. 3 ans plus tard, on s'en est sorti. On semble être dans ce qui pourrait s'appeler, là, on va toucher du bois, là, mais un horaire des plus réguliers, autant au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, de la Ligue américaine. On sait que l'an dernier, autant la LHJMQ avait eu des problèmes, on avait été obligé de retarder la fin de saison. Cette année, tout s'annonce bien, donc on est à 2 semaines de la fin du calendrier dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Chaque équipe là, a quoi 4, 5 ou 6 matchs à jouer là, d'ici la fin de la saison au cours des 2 prochaines semaines, qui va se terminer samedi le 25 mars prochain. Il en sera abondamment question. Il y avait un gros match hier. J'étais à Gatineau, les Olympiques, qui ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke pour enregistrer une 18e victoire de suite. D'ailleurs, RDS vous a présenté la 17e de suite vendredi soir, alors que les Olympiques ont eu raison des Saguenayens, un match présenté en direct sur les ondes de RDS. C'était une première visite pour la télévision au centre Slush Puppy. On va revenir donc sur la dernière semaine d'activité dans la LHJMQ. On a réalisé une courte entrevue hier également à la fin du match avec le défenseur Tristan Luneau des Olympiques, qui incidemment a été choisi joueur de la semaine dans la LHJMQ. Alors, un brin de jasette avec lui. Il s'en va vers une saison record pour la concession des Olympiques de Gatineau. On va revenir, comme on le fait à chaque semaine également, sur la dernière semaine du Rocket de Laval. Le Rocket qui est à l'étranger présentement. Ce matin, j'ai fait un brin de jasette avec le défenseur Nicolas Baudin alors que l'équipe s'entraînait à Rochester en vue de son prochain match qui aura lieu mercredi. Le Rocket qui va par la suite entrer à la Place Belle pour le week-end. On est allé également ce matin faire un tour en Finlande. Rien de moins, entrevue qu'on va vous présenter un petit peu plus tard avec le Québécois Mickaël Joly, qui, avec la formation de Hämeenlinna en Finlande, a terminé sa saison au premier rang des pointeurs de la Liga en Finlande et a été choisi, également joueur par excellence de la dernière saison en Finlande. Alors, c'est quand même pas rien. On va prendre de ces nouvelles tantôt. On va également aussi discuter un peu de ce qui se passe dans les séries de la Ligue M18-3A, les séries éliminatoires en vue de la Coupe Jamie Ferrari, et d'une qualification pour le championnat canadien qui aura lieu à Saint-Hyacinthe à la fin du mois d'avril. Ben, c'est en cours là aussi. Alors, on va faire le tour d'un peu tout ça. Ça a été une semaine quand même moins mouvementée en dehors de la glace là, avec tout ce qui s'était passé la semaine dernière en marge de la démission là, du commissaire Gilles Courteau. On a confirmé ce qu'on avait appris là, dans les jours précédents. Mario Cecchini sera le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il n'entrera en fonction que le 8 mai prochain. Pour l'instant, l'intérim est assuré par le commissaire adjoint Martin Lavallée. On va y aller tout de suite donc avec notre résumé de la dernière semaine du Rocket de Laval. 3 matchs. D'abord, mercredi dernier, la belle séquence de 15 rencontres sans défaite à domicile en temps réglementaire. C'est terminé par un revers de 5-1 face aux Sénateurs de Belleville. Il faut donner crédit aux Sénateurs. Ils ont joué un excellent match. Le Rocket était dû pour une mauvaise soirée au bureau et seul William Trudeau a déjoué le gardien des Sénateurs ce soir-là, Dylan Ferguson. Le Rocket en ce moment est à court de munitions, manque un peu d'attaque. Quand on regarde les 6 derniers matchs, le match précédent contre Rockford à domicile, ça avait été une défaite de 2-1 en tir de barrage. Les 2 matchs à l'étranger à Syracuse, une victoire de 2-1 en prolongation et une défaite de 5-2 à Springfield samedi. Alors, quand on fait la somme de tout ça, dans les 4 derniers matchs, le Rocket n'a inscrit que 6 buts. Il y en a un qui est inscrit là, en prolongation, donc pendant les 60 minutes là, à 5 contre 5, ou en tout cas pas à 3 contre 3, Laval n'a marqué que 5 buts dans ses 4 derniers matchs. Alors, c'est un peu difficile en ce moment ce qui se passe avec le Rocket. Anthony Richard a été rappelé jeudi dernier par le Canadien, juste avant le départ de l'équipe pour Syracuse. Donc, c'est évident là, que c'est un manque important. Samedi avant le match, vendredi plutôt avant le match à Springfield, on a appris là, que Gignac était blessé, que Simoneau était blessé. On a même dû transférer Nicolas Beaudin de son poste de défenseur en attaque. Je lui en ai parlé d'ailleurs dans l'entrevue qu'on va vous présenter dans quelques instants. Bref, on est à court de munitions, mais malgré tout, avec encore 14 matchs à jouer, le Rocket est toujours au cinquième rang, le dernier qui donne accès aux séries dans la section Nord. Ça chauffe derrière. Belleville et Cleveland ne sont pas trop loin. Les matchs qui s'en viennent contre Rochester, qui est l'équipe juste avant le Rocket au classement mercredi, pas besoin de vous faire un dessin que c'est extrêmement important. Et les deux matchs du week-end contre Utica, même si Utica est un petit peu plus haut au classement, ça reste un rival de la section qui est quand même encore accessible pour le Rocket. On peut vous en parler d'ailleurs du classement là, officiel, si on veut, dans la Ligue américaine en ce moment, dans la très serrée section Nord. Toronto, évidemment, on l'oublie, 83 points. Utica a 66 points. Syracuse, 64. Rochester, 59. Laval, 58. Belleville, 57. Et Cleveland, 56. Alors, vous voyez, le Rocket a 8 points de retard sur Utica, mais on joue encore deux matchs contre Utica. Alors, un balayage des deux matchs fait en sorte que le Rocket pourrait s'approcher à 4 points de l'équipe qui est présentement au deuxième rang. Donc, ce n'est pas peine perdue pour le Rocket. Et que Belleville a 57 points, donc un seul point de moins que Laval. C'est Cleveland qui est peut-être un peu dangereux. Deux points derrière, mais deux matchs en main pour les Monsters. Il reste un affrontement entre le Rocket et Cleveland de cette saison. Ça aura lieu à la Place Belle le 7 avril le prochain. Donc, pour le Rocket, Rochester mercredi, par la suite, deux matchs à domicile en fin de semaine, vendredi et samedi contre Utica. Samedi, je crois, sauf erreur, que c'est déjà tout vendu. On attend une excellente foule pour la visite des Comets ce samedi après-midi, le 18 mars prochain. Le Rocket qui va tenter donc de repartir une autre séquence là, sans défaite à domicile. On sait que les foules sont excellentes depuis le mois de décembre particulièrement. Le Rocket a donné un essai amateur à un nouveau venu, un Français, Louis Boudon. Qui a joué dans les rangs collégiaux cette année, mais en fait au cours des 4 dernières années. Louis Boudon, donc, va porter le numéro 15. On ne sait pas s'il sera utilisé là, dès le prochain match. Ça reste à régler. Mais c'est un gars qui, je regardais ses statistiques au niveau universitaire là, avec la formation de Lake Superior State. C'est un gars qui est quand même allé chercher 114 points là, au cours des 4 dernières années, 39 buts, 75 passes. Pas nécessairement un gros bonhomme. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu jouer. Il est né à Grenoble, en France. Alors, Louis Boudon, qui s'ajoute à la formation du Rocket. Question, donc, de regarder un peu comment se déroulent les choses à l'intérieur du vestiaire et d'avoir un peu le pouls de l'équipe. Ben, pourquoi pas vous présenter cette entrevue avec Nicolas Beaudin.
Nicolas, premièrement, si on parle de la dernière semaine du Rocket, ça n'a pas été évident. Il y avait trois matchs. J'avais réussi à aller chercher une victoire après la défaite à la maison contre Belleville. Comment on se sent? Est-ce qu'on voit chaque match comme si c'était déjà rendu les séries éliminatoires?
Oui, c'est sûr que ça peut être une grosse semaine pour nous. Une grosse victoire à Syracuse, à Springfield. On a eu un bon match aussi à 40 minutes de temps. La troisième période n'a pas été... comme on espérait, mais c'est une nouvelle semaine-là. Rochester, il n'y a que deux fois. C'est trois games intra-division, trois games de 4 points, puis ça prend 3 victoires cette semaine-là.
En ce moment, vous roulez avec des effectifs réduits. Tu as même été obligé de jouer à l'avant. Là. Comment est-ce que tu vis ça, ce changement-là, là, qui n'est probablement pas définitif, évidemment, là, mais ça fait, c'est quand la dernière fois que tu avais joué à l'attaque?
25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de Tata, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
Ah, c'est c'était pas évident, je te dirais, tu sais, j'étais comme un peu perdu, là, sur la glace, tu sais, surtout ces face-offs qu'on perdait, ou tu sais, je savais pas trop c'était quoi mes routes pis tout, mais c'est la dernière fois que je jouais à l'attaque, ça devait être novice, là, fait que, je suis plus un gars qui aime ça contrôler la game, qui aime ça faire des jeux pis tout, pis à l'attaque, on dirait, c'est comme, un petit peu moins, ce côté-là de contrôler la partie, fait que c'est comme là que j'avais plus de difficultés, là.
On sait, la Ligue américaine, on veut que les joueurs montent. Puis, tu sais, quand on a vu le rappel d'Anthony Richard la semaine passée, tu es content pour lui, mais tu sais, ouf, ça va être un gros morceau qui n'est pas là pour les prochains matchs. Comment on arrive à composer avec ça?
Ouais, tu sais, on a des bons joueurs ici. Je pense que c'est sûr que là, avec les blessures à Junior et Simono, ça va être mal. Là. Sinon, on avait joué à 12-6, mais on vient de signer un nouveau joueur aussi. Ça va faire du bien à l'attaque. Mais on est content pour Tony. Je pense qu'il le mérite. Il a une bonne saison. Puis c'est le fun de le voir aller avec les Canadiens. Là.
Comment tu vois ça, la défensive du Rocket? Vous êtes huit gars là, qui sont capables de jouer à la défensive, qui sont pas mal en santé en ce moment avec l'arrivée de Frédéric Allard. C'est une compétition à l'interne. C'est bon pour pour l'équipe, quoi.
Ouais, moi, je pense que c'est bon. T'sais, je veux dire, c'est les 6 meilleurs qui vont jouer à chaque soir. On a 8 défenseurs qui sont calibre Ligue américaine. T'sais, 8 bons joueurs. On est tous des chums, toutes des bonnes personnes. Puis c'est rendu ça à la glace, c'est une compétition interne. Puis je pense que c'est juste bon pour tout le monde.
T'as 30 matchs de jouer avec le Rocket. Quel bilan t'en fais jusqu'à présent de cette transaction-là qui est arrivée en début de saison?
T'sais, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi. T'sais, je veux dire, si je parle juste de ma game, mettons personnelle, à Rockford, il n'y a plus vraiment un futur. T'sais. Je ne joue pas vraiment beaucoup, je n'ai pas vraiment de powerplay, tandis qu'ici, j'ai la première ou deuxième vague de powerplay, je joue une 18-20 minutes par game. Je joue bien offensivement, je joue bien sur 200 pieds, fait que je pense que ça a quand même relancé un peu ma carrière.
Est-ce que tu vois le portrait difficile quand tu regardes tous les défenseurs qui font partie de l'organisation? Tu sais, à Montréal, en ce moment, il y a 7 défenseurs en santé, il y en a 2 de blessés, vous êtes 8 à Laval, il y en a des jeunes qui s'en viennent, on les voit arriver bientôt. Comment tu vois ta position là-dedans? J'en parlais un peu avec Frédéric Allard aussi l'autre jour. Tu sais, vous êtes un peu dans la même situation, vous aimeriez ça avoir de la chance de jouer dans la Ligue nationale, mais ce n'est pas évident avec le nombre qu'il y a présentement.
Ouais, tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup de bons défenseurs à Montréal. Puis tu sais, comme tu dis, il y en a 7 en ce moment en haut, puis il y en a 2 blessés. Mais tu sais, je regarde pas trop loin. Tu sais, je pense qu'il faut finir la saison en force. Le but, c'est de faire les séries cette année à Laval. Tu sais, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Tu sais, je pense qu'on pour vrai, on a une bonne équipe, on peut être dangereux, surtout à Laval. Tu sais, tout le monde le sait, les foules à Laval nous aident à gagner des games. Puis après ça, tu sais, chez mon maître contrat, on va voir avec mon agent qu'est-ce qu'il veut pour moi.
Toi, en ce moment, ta situation, c'est ça, c'est que tu as un contrat jusqu'à la fin de la saison, mais pour l'année prochaine, il n'y a rien de réglé, là.
Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça revenir à Montréal. C'est chez la maison aussi, j'aime ça. Puis, je me suis comme relancé cette saison à Laval. Puis, comme j'ai dit, tu sais, bon, je vais en parler avec mon agent, puis on va voir qu'est-ce qui est mieux pour moi à la fin de la saison.
Est-ce que ça provoque un stress un peu d'avoir toujours ça dans la tête, de ne pas savoir où on s'en va nécessairement?
C'est sûr que c'est un petit stress, mais je te dirais que je pense pas trop. Tu sais, je suis quand même bon à focus sur le moment. Puis, je pense que, tu sais, si tu penses trop, c'est là que. Peut-être que ta game a changé un petit peu. Tu vas essayer d'en faire trop quand c'est pas le temps, puis des choses comme ça. Fait que pour moi, c'est de garder ma game simple, essayer de produire offensivement, puis d'être bon sur 200 pieds.
Okay. Puis là, l'expérience à l'attaque en ce qui te concerne, t'aimerais mieux que ça arrive pas trop souvent, quoi, ça.
Ben, je te dirais que la première game, c'était. On a perdu Gignac, mettons, après le warm-up. C'était comme 30 secondes avant la game, l'adrénaline, pas tout. La deuxième game, c'était correct aussi, manquer d'attaquant, mais j'aimerais ça retourner à la défense mercredi. Mais peu importe ce qu'il me demande, je veux dire, quand c'est 14e à la saison, on pousse pour les 2 points, on pousse pour les séries. Fait que je veux juste faire ce qu'on me demande de faire.
Dans le fond, on t'a demandé ça. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a peut-être le plus de flair offensif dans le groupe, quoi?
Ouais, mais moi, je pense que c'est ça que j'en déduis, là. Tu sais, parce que. Je pense que oui, mais on dirait que c'est comme. Je sais pas, j'ai comme moins l'offensive même parce que t'es tout le temps défenseur sur toi, tout le temps du monde qui backtrack sur toi. C'est différent, c'est comme offensive que tu peux amener.
Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne chance pour les matchs cette semaine. Puis on sera là à RDS vendredi et samedi, comme d'habitude. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, Nicolas Beaudin a été quand même assez transparent. Disons que jouer à l'attaque pour lui, ce n'était pas quelque chose qui l'avait affectionné particulièrement. Évidemment, il faut composer avec certaines situations d'urgence. Frédéric Allard devait être rayé de l'alignement vendredi soir. On y allait avec 7 défenseurs Et finalement, on a réintégré à l'art parce qu'on a perdu, comme il le disait, là, Brandon Gignac à l'issue de la période d'échauffement. Alors, on s'ajuste avec une formation qui est un peu réduite là, du côté de Laval. Cooper Marody des Phantoms de Lehigh Valley est le joueur par excellence dans la Ligue américaine cette semaine en 3 matchs. Il a récolté 6 buts et 3 passes. Et avant d'y aller avec la LHJMQ, peut-être un petit mot sur les Lions Trois-Rivières. 1 victoire et 2 défaites au cours de la dernière semaine. Perdu 2 matchs en fin de semaine contre Adirondack. Là, les Lions entreprennent une séquence à domicile de 5 matchs contre la Floride et Norfolk. Et par la suite, on va terminer avec 8 des 9 derniers matchs à l'étranger. Les Lions ne sont pas officiellement éliminés des séries, mais l'écart est trop grand là, pour espérer effectuer une remontée pour pouvoir se qualifier pour les séries de fin de saison dans la ECHL. On parle de la LHJMQ. L'équipe de l'art, ben, c'est assurément les Olympiques de Gatineau qui n'ont pas perdu un match depuis le 18 janvier. Donc, ça va faire 2 mois cette semaine là, qu'on n'a pas perdu de match. Il y avait quand même un gros test avec 3 matchs en 4 jours en fin de semaine, dont ce match contre le Phoenix de Sherbrooke hier après-midi au centre Slush Puppy. C'est terminé par une marque de 5-2 en faveur des Olympiques. Avec cette victoire, les Olympiques ont pris le premier rang de l'Association de l'Ouest, 1 point devant Sherbrooke. Les deux équipes ont 44 victoires. Il leur reste chacune 6 matchs à jouer. Il reste un duel entre Sherbrooke et Gatineau. C'est là que ça va se régler vraisemblablement le 22 mars. Pour être honnête, le calendrier des Olympiques est un peu plus facile pour terminer la saison que celui du Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix doit se rendre en Abitibi le week-end prochain. C'est jamais évident. Il y a ce match contre Gatineau et on termine les 2 derniers matchs de la saison contre les Tigres de Victoriaville. Les Tigres qui sont quand même au 5e rang là, du classement général avec 39 victoires cette saison. Donc, le calendrier de Gatineau contre Drummondville, Shawinigan 2 fois et l'Armada 2 fois fait en sorte que les Olympiques, au moment où on se parle, doivent être considérés favoris là, pour terminer au premier rang de l'association. On verra bien. On verra bien les Olympiques qui sont en quête là, d'une 4e saison dans leur histoire de 50 ans avec plus que 100 points au classement général. Donc, les Olympiques, 18 victoires de suite. Leur record de concession, c'est 24 victoires de suite. En 95-96. Alors, si les Olympiques gagnent leurs 6 derniers matchs, ils pourraient égaler cette séquence record. Leur dernière défaite remonte au 18 janvier au Colisée Desjardins à Victoriaville, un revers de 5-2. Et avant ça, ils avaient gagné 4 matchs de suite aussi. Donc, ils ont 22 victoires à leurs 23 derniers matchs. Les Olympiques qui sont vraiment en feu. Le Phoenix de Sherbrooke, ben, avant cette défaite d'hier à Gatineau, c'était quand même 13 victoires de suite. Leur dernier revers remontait au début du mois de février contre les Remparts, une défaite en prolongation, un match qu'ils auraient pu gagner, qu'ils menaient 4-3 en fin de troisième. Si on fait le tour un peu des nouvelles pour chacune des équipes, dans le cas des Olympiques de Gatineau, je vais y aller d'abord avec les équipes. Les Remparts de Québec, on sait que ça avait été un petit peu plus difficile là, au cours des derniers matchs. Ils se sont repris avec 2 victoires contre les Huskies de Rouyn-Noranda en fin de semaine, 2-1 et 5-1. Et les Remparts, présentement, ont repris le premier rang du classement général avec 97 points. C'est le même nombre que les Mooseheads d'Halifax, mais les Remparts ont 2 victoires de plus. Les Mooseheads sont allés échapper à un match 1-0 vendredi soir à Bathurst. Le gardien recrue Joshua Fleming a été très bon avec 43 arrêts. Alors ça fait en sorte que les Mooseheads ne contrôlent plus leur destinée. Quand on regarde le calendrier des deux équipes pour terminer la saison, les deux équipes sont 97 points. C'est certain qu'Halifax, c'est un petit peu plus facile. On a 5 matchs à domicile contre Charlottetown, Moncton, Bathurst et le Cap-Breton. Et une seule partie à l'étranger contre Saint-Jean. Quand on regarde Québec, ben, il reste quand même un affrontement contre Victoriaville qui n'est jamais facile. 2 matchs contre Rimouski aussi. Et surtout, ben, c'est 3 matchs à la maison et 3 matchs à l'étranger. Alors, est-ce que les Mooseheads, qui des Mooseheads ou des Remparts termineront premier? Ils ont chacun 97 points. Gatineau en a 94 et Sherbrooke 93. C'est vraiment une belle lutte à 4 équipes. C'est 4 équipes qui sont parmi les favorites. La prochaine victoire des Remparts, leur 48e cette saison, sera la 1000e de l'histoire de l'équipe depuis son retour dans la LHJMQ. Les Remparts, 2e génération, comme on appelle souvent. Alors, c'est quand même un plateau qui est intéressant. On fait le tour des équipes. Ça a été une semaine difficile pour les Huskies de Rouyn-Noranda. 3 défaites à l'étranger. On a marqué que 2 buts en 3 matchs, 2 fois à Québec et 1 fois à Rimouski. Donc, les Huskies là, qui ont pris un peu de retard et vont terminer vraisemblablement au sixième rang du classement général. Ils ont 10 points d'avance sur Rimouski et ils ont 7 points de retard sur Victoriaville. Alors, pour les Huskies, on se prépare pour les séries éliminatoires. L'Armada de Blainville-Boisbriand doit se battre pour sa place en série. L'Armada a 52 points présentement avec 7 matchs à jouer, 3 points de plus que les Sea Dogs de Saint-Jean qui en ont 49. Mais je regarde le calendrier de l'Armada pour terminer. Un match contre Québec, 2 matchs contre Gatineau. Il y a la visite du Drakkar à Boisbriand qui peut peut-être être un petit peu plus facile, mais encore là, le Drakkar joue quand même du bon hockey là, depuis quelques temps. Les Foreurs de Val-d'Or, eux aussi, se battent pour une place en série, 51 points, 2 de plus que Saint-John. Et les Foreurs ont envoyé un communiqué ce matin je vais aller récupérer ce communiqué-là pour vous en parler parce qu'on parle souvent de transparence. Vous savez, au niveau des blessures, il y en a été évidemment question là, avec le Canadien et tout ça, mais les Foreurs ont publié un communiqué ce matin qui donne un peu l'état de santé de leur gardien de but. C'est pas évident ce que les Foreurs vivent présentement. Il y avait beaucoup de questionnements. Alors, les Foreurs ont fait cette mise à jour. William Blackburn, le gardien numéro 1 qu'on a reçu sur la glace il y a quelques semaines, a dû subir une chirurgie au genou dans les derniers jours. L'opération est un succès, mais la saison de William Blackburn est terminée. Le deuxième gardien des Foreurs, Mathis Fernandez, la recrue, a testé positif à la mononucléose la semaine dernière. Il sera à l'écart pour une période indéterminée. Le troisième gardien, Frédéric Cousineau, a subi une entorse à la cheville le 3 mars dernier lors du match à domicile contre Victoriaville. Il sera également absent pour une durée indéterminée. Alors, les trois premiers gardiens des Foreurs se retrouvent sur la touche, comme on dit. Alors, ce n'est pas évident, les Foreurs qui tentent de se qualifier pour les séries. Ils ont eu toute une performance de Mathis Lussier, un gardien de 18 ans qui a été rappelé des Inuks de Granby vendredi à son premier match en carrière dans le circuit. 48 arrêts au centre Henry Leonard à Baie-Comeau dans une victoire de 5-1. Et ce sont ces deux points-là en ce moment là, qui font la différence pour Val-d'Or en série ou pas. 51 points pour les Foreurs, 49 pour les Sea Dogs. Il reste 4 matchs aux Foreurs d'ici la fin de la saison. On reçoit Drummondville et on reçoit Sherbrooke et une série aller-retour contre les rivaux, les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Foreurs qui, on le sait, ont échangé Alexandre Doucette et Justin Robida à la pause des Fêtes. Et depuis ce temps, c'est très, très difficile. On n'a que 8 victoires là, depuis le début de l'année 2023. Le Phoenix de Sherbrooke, je vous en ai glissé un mot. Les Tigres de Victoriaville, les choses vont beaucoup mieux. 5 victoires de suite, dans lesquels on n'a accordé que 8 buts lors des 5 derniers matchs. On sait qu'il y avait une période un petit peu plus creuse là, entre le 8 février et les 3 dernières semaines de février. Mais depuis le début du mois de mars, les Tigres semblent avoir retrouvé leur repère. Et ni Sherbrooke ni Gatineau souhaitent croiser les Tigres de Victoriaville en séries éliminatoires. Les Cataractes de Shawinigan, c'est quand même 3 victoires, 2 défaites dans les 5 derniers matchs depuis le début du mois de mars. Les Voltigeurs de Drummondville, avec 55 points, là, se sont détachés un peu et devraient être en mesure de participer aux séries éliminatoires. On a craint pendant un certain temps l'équipe qui se faisait rattraper. On doit mieux jouer quand même à domicile là, du côté des Voltigeurs. Seulement une victoire à domicile au cours des 7 derniers matchs. Les Remparts, je vous en ai glissé un mot, un bon week-end contre les Huskies de Rouyn-Noranda après une défaite surprenante contre le Drakkar de Baie-Comeau, 6-3. Défaite au cours de laquelle Patrick Roy n'a pas été tendre en disant que ses défenseurs avaient été particulièrement mauvais. L'Océanique de Rimouski et les Saguenay de Chicoutimi se livrent une belle lutte là, pour le deuxième rang de la section, le troisième ou le quatrième rang de la conférence. 67 points pour Rimouski, 66 pour Chicoutimi, les deux équipes qui vont s'affronter là, vendredi à Chicoutimi. Alors, c'est un match qui va être extrêmement important pour la suite des choses. Les Sags, après 4 défaites de suite, même si on a livré une bonne performance vendredi, ça a été un gain de 6-5 hier pour les Sags à la maison contre les Foreurs de Val-d'Or. Le Drakkar de Baie-Comeau a divisé les honneurs de sa série de 2 matchs contre Val-d'Or en fin de semaine. Les Moussets, je vous ai parlé de cette défaite de 1-0, mais on a bien rebondi contre Moncton avec une victoire de 6-4, victoire au cours de laquelle Alexandre Doucette est devenu le premier compteur de 50 buts cette année dans la LHGMQ. Il a réussi un tour du chapeau. Il a obtenu également son 100e point dans ce match, tout comme Josh Lawrence qui a obtenu son 100e point, de sorte qu'il y a 3 joueurs des Mooseheads qui ont présentement franchi le plateau des 100 points. Jordan Dumais en a 122, Alexandre Doucette 101 et Josh Lawrence en a 100. C'est quand même assez impressionnant là, du côté des Mooseheads. Les Wildcats de Moncton ont perdu un premier match après 6 victoires de suite. Les Wildcats qui doivent faire un voyage aller-retour à Rimouski mercredi pour aller reprendre ce match du 1er mars qui avait dû être annulé là, en raison des problèmes avec l'amphithéâtre du côté de Rimouski. Alors Moncton sera à Rimouski pour un seul match mercredi. Les Eagles du Cap-Breton ont balayé leurs deux matchs à la maison en fin de semaine contre les Islanders de Charlottetown. Donc, ils sont passés devant Charlottetown au classement de l'association. Cap-Breton qui est maintenant 12e au classement général, Charlottetown 13e. Cap-Breton, là, les deux équipes, Cap-Breton et Charlottetown, vont vraisemblablement devoir affronter Québec et Halifax en première ronde. Quel affrontera lequel, c'est pas tout à fait réglé. Je doute que ces deux formations puissent rejoindre Bécomo au 6e rang. Donc, pour le Cap-Breton, c'est quand même un week-end intéressant. Charlottetown, 4 défaites de suite. Les Sea Dogs sont allés chercher 2 points en fin de semaine avec 2 défaites en prolongation. Les Sea Dogs qui auraient dû être en mesure là, de gagner contre le Titan des Caddy Batters pour se rapprocher de Val-d'Or, mais ce n'est pas terminé pour les Sea Dogs. Il leur reste 5 matchs et ils sont 2 points derrière Val-d'Or et 3 points devant l'Armada. Donc, il y a toujours une possibilité. 2 victoires pour le Titan en fin de semaine. Je vous ai parlé de ce gain de 1-0 contre Halifax, 4-3 contre les Sea Dogs, mais avec 5 points de retard sur Val-d'Or, 5 matchs à jouer, dont 4 à l'étranger. J'ai l'impression que ça va être difficile pour le Titan. Le Titan qui n'a que 3 victoires depuis le début de la saison sur les patinoires adverses. Alors, ce n'est pas évident. Juste pour le plaisir, là, si la saison se terminait aujourd'hui, les affrontements de séries éliminatoires iraient comme suit. Gatineau contre Blainville, Sherbrooke contre Drummondville, Victoriaville contre... Gatineau contre Val-d'Or, je m'excuse. Sherbrooke contre Blainville, Victoriaville contre Drummondville et Rouyn-Noranda contre Shawinigan. Ce serait ça dans l'Ouest. Dans l'Est, on aurait Québec-Charlottetown, Halifax-Cap-Breton, la rivalité de la Nouvelle-Écosse, Rimouski-Bécomo, la rivalité de l'Est du Québec et Chicoutimi contre Moncton. Ça reste à déterminer. Ce qui va être important dans Chicoutimi, Moncton et Rimouski, là, c'est l'avantage de l'Atlas aussi, parce que si on termine 3e ou 4e dans l'association, la série va commencer à la maison. Il y a Alexis Gendron qui est à 49 buts aussi. Je veux vous en parler. J'en ai glissé un mot dans notre reportage de vendredi. Alexis Gendron va éventuellement marquer son 50e but cette année. Et ça va devenir, avec son père Martin, le 5e duo père-fils à marquer 50 buts dans la LHJMQ en une saison. Christian Dubé et Normand Dubé ont déjà fait ça. Éric Chouinard et Guy Chouinard, Régent Giroux et Alexandre Giroux, Patrick Gay et François Gay. Patrick Gay qui a compté 50 buts l'an dernier. Et là, le duo père-fils des Gendron pourrait éventuellement aussi réussir cette marque. Tristan Luneau est le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Hier, à l'issue de la rencontre entre Gatineau et Sherbrooke, j'ai fait un petit brin de jasette avec lui. Voici cette entrevue. Est-ce que tu as l'impression, Tristan, que vous avez envoyé un message un peu à la Ligue là, en allant chercher ce game-là? Je pense qu'elle était attendue, là, ces deux bonnes équipes. Là, puis vous sortez quand même avec une belle victoire.
Oui, c'est sûr que notre but, c'était vraiment ça, de lancer un message, mais plus, je pense, à l'interne, de se prouver un peu qu'on était capable de compétitionner contre les meilleures équipes puis un peu nous donner de la confiance pour rentrer dans les playoffs. Là.
Qu'est-ce qui fait que ça va si bien que ça là, depuis 18 matchs, entre autres, des victoires, mais même avant ça, là, je pense que vous avez réussi à faire tout cliquer ça ensemble?
Exact. Tu l'as bien dit, je pense que c'est vraiment la chimie là, qui fait en sorte qu'on a autant de succès sur la glace. Je considère vraiment que j'ai 20 chums dans l'équipe puis je pense que c'est pour ça qu'on se tient sur la glace et qu'on a une bonne exécution.
L'importance du premier rang, ça va-tu avoir une grosse influence à la fin? Il faut battre tout le monde?
Non, exactement. Il faut que tu passes à travers à tout le monde, mais c'est sûr que si tu peux prendre des équipes en bas de classement pour partir les playoffs, mais je veux pas, tu gardes un peu. Je ne veux pas dire ton énergie, mais tu donnes moins de chances de perdre une série, si je peux dire ça comme ça.
Au niveau personnel, t'es-tu déjà senti aussi bien que ça? Là? On te regarde jouer, tu as l'air en confiance quand tu prends la rondelle, puis tu manœuvres, puis tu sens un peu comme tu le faisais là, dans les rangs midget.
Oui. Je pense que c'est juste une progression. Là. Je suis lié, puis la ligue reste la même âge. Fait que c'est sûr que ça l'aide un peu. Fait que juste continuer à avoir une progression puis continuer à jouer dans mon style de jeu puis essayer d'aider mon équipe à gagner. Là, je pense que c'est juste ça.
Cette équipe-là a 50 ans, les Olympiques. Puis il n'y a jamais eu un défenseur qui a fait 80 points dans une saison. Tu t'en vas vers ça. Je sais que tu vas me dire que tu penses à l'équipe, mais c'est quand même un bel accomplissement.
Non, c'est sûr. Mais en même temps, si c'était pas de mes coéquipiers, là, j'aurais pas autant de points. Fait que c'est sûr qu'une grande partie de la job est faite par mes coéquipiers. Souvent, c'est juste d'avoir une bonne relance. Puis on a tellement des bons forwards que les autres finissent par scorer sur un rush ou scorer sur dans un offensive. Fait que la grande partie du travail, là, c'est eux autres qui en font pour moi. Là.
J'ai souvent parlé de ça, des jeunes comme toi l'année passée, que c'était leur année de repêchage. Des fois, on peut-être pas la saison qu'ils voudraient avoir. Tu sais, tu avais eu des blessures, puis tout ça. Puis on se rend compte l'année d'après que tu as peut-être été repêché trop bas. Là, quand on, si on faisait le repêchage cette année, ça serait peut-être différent. Pour toi, ça change-tu quelque chose?
Hein? Mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est ça mon but. Je pense que c'est ça le but de tous les joueurs. Tu sais, oui, il y a une année de repêchage, mais après ça, c'est de prouver que tu vaux plus que ton rang au repêchage. Fait que je pense que c'est tout ça qu'on a en arrière de la tête. Puis qu'on va essayer de prouver, puis remercier aussi l'équipe qui nous a repêchés.
La différence entre toi cette année et l'année passée, c'est juste l'année de plus, la confiance, ou c'est peut-être dans la santé? Comment tu évaluerais ça?
Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr, l'année passée, là, comme tu le sais, je revenais d'une blessure. Puis il y a ça, il y a la pression d'un draft que, veut pas, ça affecte un peu tout le monde à différents niveaux. Puis aussi qu'on a une meilleure équipe nécessairement, puis aussi que je suis un an plus vieux. Fait que je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que si je connais une meilleure saison que l'année passée.
À 17 ans l'an passé, jouer contre les meilleures lignes adverses aussi parce que tu étais dans une équipe qui était comme ça, là, dans le fond?
Non, c'est ça. Je pense pas que mon rôle ait changé avec les Olympiques. Je pense que c'est, comme je l'ai dit, là, juste le fait d'avoir une progression puis d'essayer d'être meilleur à chaque jour.
Cette victoire-là vous donne, ajoute la confiance. Pour y avoir 6 matchs à jouer, là, vous pensez que vous êtes capable de finir la saison sans échapper de match?
C'est ça notre but, c'est certain. On travaille fort pour ça.
Merci.
Merci, ça.
Alors voilà donc pour notre segment sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vais juste vous lire avant qu'on passe à la suite de notre balado-diffusion. Un message publié par Antoine Tardif. Qui est Antoine Tardif? C'est l'actuel maire de Victoriaville et c'est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a publié sur son compte Twitter un message quand même extrêmement évocateur de ce qu'il a vécu, lui, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, ça va comme suit. Au cours des dernières semaines, plusieurs choses ont été dites ou écrites au sujet de la LHJMQ de ses joueurs. Des histoires inexcusables ont été dévoilées au grand jour et ont sévèrement entaché l'image de la Ligue. Mais ce soir, en revenant du match des Tigres de Victoriaville, qui ont offert un spectacle exceptionnel aux milliers de partisans présents, et après avoir vu les joueurs, les idoles de plusieurs jeunes hockeyeurs prendre le temps de signer les chandails et cartes à de centaines d'enfants rassemblés sur la glace pour obtenir un autographe après le match, je ressens le besoin d'écrire ces quelques lignes pour souligner à quel point la LHJMQ et ses joueurs ne sont pas tous le reflet de ce qui a été rapporté ces dernières semaines. En fait, la majorité d'entre eux, tout comme je m'efforçais de l'être lorsque j'évoluais dans cette ligue, tentent d'être de véritables modèles de détermination, de persévérance et d'altruisme pour les villes et la population qu'ils représentent. Les propriétaires d'équipes multiplient les ententes et les partenariats avec la communauté, tandis que les joueurs, eux, ne refusent jamais une invitation dans une école à une pratique pour être là, donc, pour les gens de la communauté. Comme ancien gardien de but dans la LHJMQ, aujourd'hui maire de Victoriaville, je suis reconnaissant du support, du soutien, des opportunités que j'ai obtenues de la part des propriétaires, des dirigeants, des entraîneurs et des conseillers pédagogiques pour lesquels j'ai évolué. Je suis persuadé que mon passage au sein du circuit Courtois a grandement contribué à façonner positivement la personne que je suis aujourd'hui. Je crois donc qu'il faut tirer des leçons des allégations dévoilées au cours des dernières semaines. Faire les correctifs nécessaires, mais aussi reconnaître que tout n'est pas négatif. Et en sortant de l'aréna ce soir comme papa de 2 petits garçons, comme ancien joueur de la LHJMQ et comme maire de Victoriaville, j'étais fier de notre équipe et d'avoir évolué au sein de cette ligue dans le passé. Ça vient quand même d'un ancien joueur et d'un politicien, un maire de ville, d'une des 18 villes du circuit. Alors, je trouvais ça intéressant de le lire. Après que la rafale soit passée là, à la suite de la démission de Gilles Courteau la semaine dernière, il y a eu plusieurs de ces témoignages-là sur les médias sociaux. Moi-même, en ondes à RDS, j'ai tenu à rappeler que Gilles Courteau, ce n'est pas que ce qu'on a entendu à la toute fin. Là. Oui, il y a eu des choses difficiles à la toute fin, des histoires qui ont sorti, qui ont terni l'image, mais ce que ce monsieur-là a fait pour la LHJMQ depuis 37 ans comme président commissaire de la Ligue, c'est phénoménal. Et c'est vrai ce qu'Antoine Tardif a dit dans son message sur les médias sociaux. La Ligue junior majeure du Québec, ce n'est pas ce qu'on a entendu au cours des dernières semaines et ces histoires-là malheureuses qui ont frappé, notamment au niveau des initiations. Là, en tout cas, je n'ai pas besoin de rappeler tout ça, vous êtes au courant. Donc, merci Antoine Tardif, un chic jeune homme que j'ai couvert à l'époque parce qu'il était gardien de but dans le circuit et que je croise à l'occasion lors de mes déplacements à Victoriaville. On l'a déjà d'ailleurs reçu à notre balado-diffusion, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, pour parler justement de son expérience dans la LHJMQ. Voilà donc pour la LHJMQ. On surveille donc ce qui se passe au cours des 2 prochaines semaines et on vous en reparle évidemment abondamment. J'en ai fait l'allusion tantôt, Michael Joly, qui est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a joué 3 ans et demi avec l'Océanique de Rimouski et qui a terminé son séjour dans la LHJMQ avec ce qu'on appelait à l'époque les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il a donc passé 4 saisons dans le circuit, Michael Joly. C'est un gars originaire de Gatineau entre 2012 et 2016. Il était un fichu de bon marqueur, une saison de 44 buts en 2013, à l'âge de 18 ans, une saison de 47 buts à l'âge de 20 ans. Il s'est promené par la suite pendant 5 ans dans les circuits mineurs américains, que ce soit la Ligue américaine, la ECHL, où là aussi, il parvenait, surtout dans la ECHL, à tirer son épingle du jeu. Il a joué notamment avec les Eagles du Colorado en 2017-18. Il avait été phénoménal en séries éliminatoires avec 29 points en 24 matchs. Mais il a décidé, il y a 2 ans, de s'expatrier en Finlande pour aller jouer pour la formation de Hämeenlinna dans la Ligue élite finlandaise. Et sa saison a pris fin en fin de semaine. Il termine au premier rang des pointeurs de la Ligue avec 64 points en 60 matchs, dont 25 buts. Il a été nommé joueur par excellence du circuit, premier pointeur de la Ligue aussi. Alors, j'ai voulu prendre de ses nouvelles un petit peu. Et au passage, on parle d'un espoir du Canadien avec lequel il a évolué cette année, Petteri Nurmi. Alors, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Michael Joly.
25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tatas, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
On s'entretient avec celui qui a été nommé le joueur par excellence de la Ligue élite finlandaise cette année, le Québécois Michael Joly. Premièrement, félicitations, superbe saison. Comment c'est la vie de joueur de hockey en Finlande? Ça fait 2 ans que tu es là, puis tu sembles connaître pas mal de succès. Là.
Ah, merci. C'est différent, mais moi, je comprends que tu t'adaptes. Là. C'est semblable au Canada. Le jeu est différent là, que le jeu nord-américain, mais... Écoute, ça a été deux belles années. Puis, j'ai été utilisé comme que j'aime être utilisé comme joueur d'hockey. Donc, ça a été un succès à ce niveau-là.
Après ton stage junior, tu as joué 5 ans dans les rangs professionnels. Tu t'es promené entre la Ligue américaine, la ECHL. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que c'était le temps de regarder vers l'Europe là, avant la saison 21-22?
Moi, je me dis. T'sais, pour être honnête, j'ai dit je vais essayer le plus possible au niveau nord-américain, là, faire mon chemin vers la Ligue nationale. Puis si ça marche pas, ben j'ai tout le temps entendu, tout plein d'entraîneurs, j'ai joué avec. Là, puis des joueurs qui me disent tu devrais aller en Europe. Mais moi, j'étais patient. Puis là, après, la dernière année j'ai eu, c'est le COVID, puis ça a vraiment pas bien été. Là, le timing était pas bon. Là, fait que là, ça a pas pris de temps. J'ai eu un offre en Finlande, puis j'étais allé dessus.
Là, tu joues pour une formation qui est située à Hämeenlinna. C'est une petite ville. Tu as eu 2 saisons, 50 points l'an passé, 64 cette année. Premier compteur de la Ligue. Votre équipe ne s'est pas qualifiée pour les séries, mais est-ce que pour toi, c'est positif quand même? Est-ce que tu as l'impression que ça te relance un peu dans ta carrière pour la suite?
Ah, définitivement. Ça a été deux vraiment bonnes années personnellement là, au niveau hockey, même si... Puis notre équipe, ça n'a pas été. C'est tellement proche là, les points là, à la fin de l'année ici. Fait que ça n'a pas joué de notre bord, mais je peux être fier de mon succès. Puis je pense que ça peut m'amener plus loin au hockey.
Qu'est-ce qui regarde pour toi? Est-ce que tu es encore en Finlande l'an prochain ou tu regardes pour autre chose?
Je regarde pour autre chose, définitivement. Je pense pas revenir l'an prochain. J'ai essayé de monter. C'est sûr que mon but, ça reste encore la Ligue nationale, là, mais j'essaie d'ouvrir le plus de portes possible en fond. Puis après ça, je prends une décision.
Explique aux gens peut-être, tu sais, tu sors des rangs juniors, tu as eu des saisons quand même de 44, de 47 buts, tu as gagné un trophée important avec Rimouski. Le step suivant, et des fois on pense que ça va être facile, mais c'est peut-être plus difficile de passer, je le dis souvent, du junior à la Ligue américaine que de la Ligue américaine à la Ligue nationale.
Ouais, mais c'est particulier ça, parce que bien des joueurs qui... La Ligue américaine, c'est probablement une des... D'après moi, c'est probablement la ligue la plus dure à jouer. Puis, il y a souvent des joueurs qui sortent de la Ligue américaine qui font pas super bien, mais c'est des bons prospects puis qui arrivent dans la Ligue nationale puis qui ils dominent, tu comprends? Parce que c'est leur style de jeu. Puis, quand tu arrives dans la Ligue américaine, c'est pas mal de grind. Puis, c'est du travail fort, c'est bien du dump and chase. Puis, c'est particulier, comme je dis.
Est-ce que tu suis quand même pas mal tout ce qui se passe au Québec encore? Est-ce que tu regardes un peu ton ancienne équipe? Parce qu'en ce moment, j'étais à Gatineau hier. Je sais que tu viens de là. Là c'est la folie avec les Olympiques. Là, 18 victoires de suite, le nouvel aréna, puis tout ça. Est-ce que tu as la chance de suivre ça à distance un petit peu?
Je le suis un petit peu, là, mais c'est tellement difficile avec ces 7 heures de différence. Donc, tout se passe dans les heures du matin ici. Fait que c'est difficile. Là, plus les nouvelles, là, ça passe plus à la télé ici. Donc, je regarde un peu ça avec les réseaux sociaux, mais je pense pas, c'est pas mal plus difficile.
Si tu compares le jeu de la Ligue élite finlandaise avec ce que tu as vécu dans la Ligue américaine, est-ce que ça se rapproche ou c'est bien différent?
Je trouve au début, je trouvais ça beaucoup différent, mais ça se rapproche dans certaines choses. Là, c'est intense et ça patine tout le temps. Tous les joueurs patinent, travaillent fort, ça finit toute leur mise en échec. Mais ça joue plus à 5, tu comprends? Là, si au nord-américain, c'est tu vas passer à la puck à la ligne rouge, tu traverses la ligne rouge, tu dors, tu forecheck, tu backcheck. Quand tu arrives ici, si les défenseurs, ils ont rien en sortant de la zone, mais ils vont revenir à 5. Ils vont revenir en arrière de leur filet, puis ils vont regrouper à 5. Donc ça, c'est différent définitivement, mais c'est pas mal rapide ici, je trouve.
Mais compter des buts, ça se perd pas, peu importe dans quelle ligue
non,
tu joues.
Non, non, ça. Ben... c'est là que les power play rentrent en jeu. Puis...
Michael, je veux te profiter que je parle avec toi pour te parler d'un espoir du Canadien qui jouait avec toi, le Petri Nurmi. C'est un gars que le Canadien a repêché quand même tard en septième ronde. Qu'est-ce que tu vois en ce gars-là? Maintenant, si tu parlais aux partisans du Canadien, c'est-tu un gars qui a une chance de percer en Amérique du Nord un jour?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il est encore jeune, puis... Je pense que le plus tôt qu'il va aller là, le plus de bonheur qu'il va pouvoir se développer au jeu nord-américain, puisqu'il y a du talent. Là. Il est vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Là. C'est jeune, puis tu sais, c'est foutu de trouver avec un entraîneur qui joue comment il faut qu'il joue, si tu comprends. Fait que, il y a définitivement une place. Là. Ça dépend s'il se fait bien jouer, là, puis il se fait placer à la bonne place.
Est-ce qu'il t'a posé beaucoup de questions sur le Québec, sur Montréal, puis tout ça?
Il m'a surpris, parce que l'an passé, il n'est pas allé au camp. Donc, il me parle pas beaucoup, mais je le vends tout le temps. J'ai dit, va-t'en à Montréal. Tu devrais aller là à Montréal, passer une couple de semaines là-bas. Là, puis tout.
OK, ben écoute, on va le suivre à distance. Moi, je l'ai vu quelques matchs au championnat du monde junior l'été précédent, celui qui avait été repris durant l'été, mais il jouait pas beaucoup, honnêtement. Ouais, ben, Michael, écoute, félicitations, on va suivre ça pour toi, qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses, mais c'est quand même une très bonne ligue en Finlande, alors de dominer comme ça dans cette ligue-là, ça a été quand même un bel accomplissement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Parfait, merci beaucoup, ça fait plaisir.
Alors voilà, donc cet entretien avec Michael Joly, toujours aussi sympathique, un gars qui fait sa place en Europe. On verra la suite des choses pour lui, qu'est-ce que ce sera. Il a parlé de d'autres avenues possibles. Évidemment, avec la saison qu'il vient de connaître, il s'est assurément ouvert des portes. Alors, on suivra ça au cours des prochaines semaines. Il ne semblait pas dire qu'il retournait en Finlande. J'espère que vous avez bien retenu son commentaire quand il a parlé du saut dans la Ligue américaine. Il a dit que c'est probablement la ligue la plus difficile à jouer parce qu'on sort du junior à 19-20 ans, rempli de confiance avec des saisons de 35, 40, 50 buts. Et là, soudainement, on doit se réajuster, affronter des hommes. Et c'est là probablement là, que le réveil, quelquefois, peut être brutal pour certains. Michael Joly, qui a quand même un peu d'expérience, il a passé 5 ans dans la Ligue américaine, dans la CHL. Alors, je voulais souligner sa performance. Je termine l'émission de cette semaine en vous parlant des séries éliminatoires dans la Ligue M18-3A. Vous savez qu'il y a un format des séries complètement déjanté cette année, inspiré par notre collègue Bruno Gervais. Le problème qu'on vivait souvent dans la Ligue M18-3A, la Ligue Midget-3A, comme on l'appelait, c'est qu'il y a des équipes qui tombaient en vacances de bonne heure. Et là, on s'en allait à ce qu'on appelait la Coupe Dodge, qui était un peu un tournoi de relégation qui n'était pas nécessairement motivant là, pour les équipes. Alors là, on a un nouveau format de série qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, on est rendu au 13 mars, les 15 équipes sont toujours en action. Il y a eu une première ronde de série qui mettait en vedette les équipes de 4e et de 5e place de chacune des trois sections. Une série aller-retour de 2 matchs qui s'est jouée le 3 et 5 mars dernier. Il y a 3 équipes qui ont gagné cette série aller-retour-là, Amos, Châteauguay et le Collège Notre-Dame. Et 3 équipes qui ont perdu, évidemment, Gatineau, le Collège Charlemagne et Jonquière. Les 3 équipes qui ont perdu ne sont pas encore éliminées. Là, ils embarquent à compter de 7 semaines, donc mercredi, vendredi, dimanche, dans un tournoi à la ronde de 3 matchs. On va éliminer une équipe et il y en a 2 qui vont se qualifier pour la 2e ronde de relégation. Alors, à la suite de ces 3 matchs-là, il y aura une formation d'éliminés, 2 qui seront en attente des 6 équipes qui vont perdre les demi-finales de section qui sont en train de jouer. Alors, ça peut avoir l'air compliqué comme ça, là, mais les 2 équipes qui vont gagner entre Gatineau, Collège Charlemagne et Jonquière vont entrer en compétition avec les 6 équipes qui vont perdre les actuelles demi-finales de section 3 de 5, qui, elles, ont commencé en fin de semaine. Saint-Eustache-Amos, c'est l'égalité 1-1. Laval-Montréal, Astère-Blondin, c'est l'égalité 1-1. Et les 3 autres séries sont menées 2-0 par Lac-Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Séminaire-Saint-François et Trois-Rivières. Les 6 équipes qui vont gagner ces demi-finales de section-là s'en vont dans les finales de section. Et les 3 finales de section, les 3 gagnants vont obtenir leur qualification pour un événement qui sera organisé à Saint-Hyacinthe, qui va faire un peu penser à ce que les Américains font avec le Final Four. On va appeler ça le challenge final, si on veut. Alors, les 3 gagnants des finales de section vont aller tout de suite être qualifiés là. Comment on va sélectionner l'autre équipe qui va participer? Bien, elle va venir justement des relégations. Lorsque les 6 perdants des demi-finales seront connus, ils vont rejoindre les 2 équipes qui vont gagner la ronde de relégation de cette semaine. On va en avoir 8. De ces 8-là, il y aura des matchs à simple élimination. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Il reste 4 gagnants. On joue 1-4, 2-3, il reste 2 gagnants. Et les 2 premières s'affrontent, il reste 1 gagnant. Ce gagnant-là, de la ronde de relégation, va aller retrouver les 3 perdants des finales de section. Alors, ça va faire 4 équipes. Vous me suivez encore. 1-4, 2-3. Le gagnant de cette ronde de relégation-là va aller rejoindre les 3 équipes gagnantes des finales pour participer aux 2 derniers matchs de la saison. Et ça va se dérouler les 8 et 9 avril prochain. Le samedi, il y aura les 2 demi-finales et la grande finale le dimanche de Pâques, le 9. Et l'équipe qui va gagner ce match-là, un seul match, va représenter la Ligue M18 au championnat canadien qu'on appelait avant la Coupe TELUS, mais qui est maintenant sans commanditaire. Alors, au cours des prochaines semaines, on va garder un œil là-dessus aussi. Les nombreux recruteurs de la LHGMQ sont bien heureux parce que les équipes jouent plus longtemps cette année. On a plus de chances de les voir évoluer. Donc, sur les 15 équipes là, en lice, il y a une équipe qui va tomber cette semaine. Il y aura une première équipe éliminée, mais elle pourra dire qu'elle s'est battue au moins jusqu'au 15, 17 ou 19 mars. Ce qui n'était pas le cas avant, où des fois la saison de ces formations-là terminait à la fin février. Les autres, évidemment, ben, vont poursuivre là, quand même un bon petit bout encore. Alors, c'est une formule qui est un peu déjantée, je vais employer ce mot-là, qui sort un peu des sentiers battus. Avant, dans la Ligue Midget 3, on avait toujours les fameuses séries, là, quart de finale, demi-finale, finale. Alors, à la fin, le 9, ça va se régler sur un seul match pour savoir qui va représenter la Ligue. On sait que les Gaulois de Saint-Hyacinthe seront là également comme équipe hôtesse du tournoi. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle nos rendez-vous vendredi et samedi, le Rocket, le hockey du Rocket Saint-Hubert sur nos ondes avec la visite des Comets de Utica. Guillaume, est-ce qu'on a le tableau des matchs à RDS.ca? Je ne sais pas si on l'a ou si on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas, mais il y a un match présenté encore pour les deux prochains vendredis gratuitement sur le RDS.ca. Je pourrais vous trouver, là, laissez-moi regarder un petit peu. Je vais vous trouver quel match qui sera présenté gratuitement vendredi. Ce sera le duel entre Québec et Victoriaville. Et le vendredi suivant, ce sera le duel Victoriaville-Sherbrooke. Donc, nos deux derniers vendredis pour le RDS.ca en saison régulière, un match gratuit offert en web diffusion. Je remercie Guillaume Poliquin à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités cette semaine, Nicolas Baudin du Rocket de Laval, Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau et Mickaël Joly, le joueur par excellence de la Liga finlandaise, que j'ai eu le plaisir de faire un brin de jasette avec lui. Voilà, c'est tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace.